Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes, en DAB+, ou sur radioalliance+.fr. Je suis le docteur Jacques Jaume. Je produis et j'anime l'émission que vous écoutez et qui se nomme Votre Santé est un trésor. Je reçois aujourd'hui une nouvelle fois, avec toujours autant d'émotion et de plaisir, un Montpelliérain, très connu dans la capitale de l'Hérault. Je vous rappelle qu'il est le président du cercle Cambacérès, nous ne l'avions pas dit la dernière fois, mais il fait partie de multiples associations. Vous l'avez reconnu, c'est Florian Mancione, créateur de Florian Mancione Institute en 1976. Bonjour à toi Florian, et merci d'être avec nous encore aujourd'hui.
Bonjour Jacques.
J'aimerais tout d'abord que tu nous présentais un peu plus. Alors, la dernière fois, je te présentais, mais avec beaucoup d'activités, bon, professionnelles. Maintenant, tu es pensionné, tu n'es pas retraité, puisqu'il est très actif. Et au niveau associatif, tu fais partie de combien d'associations ?
D'abord, je me définis comme un créateur de liens sociaux.
Oui, ça, c'est important.
Voilà, ça, c'est très important. Et je me nourris du contact des autres. Mmh. Et dans chaque association, on doit apporter des choses pour en recevoir, en fait. Et j'aime bien relier les gens entre eux.
Oui.
Parce qu'en reliant les gens entre eux, ben, ils s'expriment, ils se découvrent, ils élargissent leur réseau, ils augmentent leurs échanges, leurs réflexions. Voilà.
Oui.
Ça, c'est très important.
Alors, Florian est un homme de réseau, mais dans le bon sens du terme.
Bien sûr,
hein,
bien,
voilà.
Sûr, bien sûr.
Et alors, est-ce que tu sais combien d'associations tu fais partie ?
Où j'ai fait partie, en fait. Hein,
oui, bah fait.
Plusieurs années, en fait. Plusieurs, voilà.
Bon,
plusieurs. Aussi bien professionnel que intellectuel,
oui,
ou autre, en fait.
Personnel.
Ou faire du bénévolat. Hein. J'ai même fait partie de la Swiss Amitié, par exemple. Hein. Ça peut surprendre, en fait. Hein. Et je fais partie de Mensa. Je le dis pas souvent.
Mensa, c'est quoi ?
J'en parle pas beaucoup, en fait.
Hein. C'est quoi, mais...
Mensa, c'est une association internationale qui regroupe des gens qui ont un QI supérieur à 132.
Ah,
bon,
donc tu es intelligent.
Je ne le dis pas souvent parce que ça peut prêter à sourire, en fait. Mais c'est vrai, je fais partie. J'ai même été président de Mensa à Montpellier.
Ah, bah alors, tu es très intelligent.
Comme disait Christine, ma femme, je préfère que mon mari soit le président de Mensa que le roi des cons.
Oui.
Voilà, donc, elle avait le sens de l'humour.
Alors, nous avons parlé lors d'une dernière émission d'un manuscrit que tu m'as confié, que je voulais qu'on connaisse avant son édition. Y a-t-il une vie avant la mort ? Réflexion sur la mort d'un être cher. En effet, tu as perdu ton épouse, Christine, le 1er septembre 2025. Et tu es donc un homme en deuil, un veuf, hein, ce qui est rare, c'est pour ça... Enfin, ce qui est rare, c'est pas rare. Ce qui est rare, c'est que les veufs s'expriment. C'est pour ça que j'ai sauté, si je me permettais l'expression, sur l'occasion pour t'inviter. En plus de ce manuscrit, un projet d'édition, dont tu nous reparleras lorsque le livre sera un jour sorti. Je pense qu'il le faut. Hein.
S'il sort un jour, en fait. Hein, moi, j'ai... Mon but, c'est d'écrire pour moi. Donc, le fait déjà d'écrire, et c'est toujours en cours d'écriture, en fait, hein, parce que je le complète avec beaucoup de choses. Déjà, ça me fait du bien. Voilà, d'un point de vue thérapeutique, ça me fait du bien.
Voilà, on en a parlé la précédente écriture. Mais en plus de cette thérapie par écriture, si on peut dire, tu as créé un groupe de parole pour endeuiller dans un contexte non médical.
Exact.
Alors, j'ai essayé de le contexte non médical parce qu'il existe des groupes de parole dans des associations de soins palliatifs, des associations d'addictologie, des groupes de parole pour des maladies chroniques. Il y a le nouveau concept qui est parti il y a quelques années, mais qui est un peu ralenti, c'est l'éducation thérapeutique du patient. Mais ce n'est pas un groupe de parole, mais ça permet aux patients de s'exprimer avec un patient expert. Mais donc, les groupes de parole existent. Mais c'est toujours dans un contexte quand même médical. Là, il n'est pas médical. C'est la création d'un groupe de parole qui nous intéresse aujourd'hui. Hein, c'est ce côté de... Alors, comment est venue cette idée qui a engendré cette initiative ?
C'est une idée égoïste. Je n'ai pas peur de le dire, une idée égoïste. Je voulais savoir comment les veufs et les veuves vivaient leur veuvage, comprendre leurs émotions, comprendre ce qu'ils ont ressenti, et comprendre comment ils avaient réorienté leur vie. Et comparer un petit peu ce qu'ils faisaient avec ce que je faisais moi-même. Avec
D'accord.
ce que j'avais l'intention de faire. Donc c'est vraiment une position très égoïste. Et je me suis dit qu'en réunissant des gens très différents, ben on allait tous, enfin, surtout moi en tout cas, on allait tous apprendre des choses. Par exemple, dans le groupe, j'ai un ami dont la femme s'est suicidée. Et non seulement sa femme s'est suicidée, mais 2 ans après... Sa fille s'est suicidée. Et aujourd'hui, il a une compagne. Voilà. Là ça m'épate. Et je veux savoir comment on vit après ce double drame, en fait. Hein, et comment on rebondit. Ça m'intéresse. Quand, par exemple, donc Christine est morte au 1er septembre, le 26 décembre, après les fêtes de Noël, je suis parti en voyage. Parce que chaque année, avec Christine, on partait en voyage à l'étranger. Donc là, je dis, je ne vais pas changer, il n'y a pas de raison, en fait. Hein. Donc je suis allé voyager. J'ai demandé à des amis s'ils voulaient venir avec moi. Non, ils ne voulaient pas, ils étaient pris. Je suis allé seul. J'ai intégré un groupe avec l'agence Havas, tout ça. Oui. Voilà. Et je me suis régalé. Donc, je suis parti en Égypte, je me suis régalé. Et quand je suis rentré, que j'en ai parlé dans ce groupe d'échange, il y avait une amie dont le mari était mort il y a 3-4 ans, qui m'a dit, Florian, je t'admire parce que moi, j'aurais pas pu partir en voyage. Et elle n'est pas partie en voyage depuis 3-4 ans.
Et alors, comment tu as fait pour contacter des personnes qui participent notamment? Comment tu savais qu'ils étaient en deuil? Comment ça s'est passé?
Ah, ça s'est passé de manière très, très, très spontanée et très naturelle. Parce que forcément, les gens savaient que Christine était morte, ou à l'occasion, je le disais. Et l'autre me disait, mais tu sais que moi aussi, j'ai perdu mon conjoint, j'ai perdu ma femme. Voilà, c'est ça en fait. Hein. Et là, on voyait dans le regard la complicité qui existait. Hein, entre.
Oui, on a partagé la même souffrance.
Et on partage toujours la même souffrance en fait. Hein. Tu sais que peut-être que... un mois après le décès de Christine, je rencontre quelqu'un dans la rue à Montpellier, une vieille amie, et je savais que son mari était mort il y a 3-4 ans. Alors je lui dis, alors dis-moi, donc elle savait que Christine était morte, alors dis-moi, alors comment ça se passe? Je lui posais la question, et en même temps j'avais peur de la réponse. Mmh. J'avais peur de la réponse en fait. Hein. Et elle me répond, tu sais Florian, c'est pire. Ah oh. Oui. J'avais peur de la réponse et la réponse, je l'ai prise en pleine gueule en fait. Oui. Hein. Et donc je me suis dit, ça serait intéressant d'échanger pour voir comment on se comporte en fait. Hein. Est-ce qu'on accepte?
C'est une idée thérapeutique qu'on a, que les soignants ont, mais ça, c'est ton propre chef.
Savoir comment quelle était la présence dans la maison du défunt.
Et alors pratiquement, comment tu as fait pour constituer le groupe, des mails, etc. Et combien de personnes y participent?
6-7 personnes à peu près.
Et ça se passe où?
Oh, chez soi en fait. Hein. Voilà, hein. Chez l'un ou chez l'autre. Ah, voilà, lors d'un café, oui, bien sûr en fait. Hein.
Voilà, donc c'est vous réunissez à 7-8, chacun à tour, vous mangez ensemble ou pas.
Un café avec un petit goûter, etc. Ouais. C'est très sympa en fait. Hein. Mais c'est intéressant que chacun raconte comment il vit. Il y en a un qui me dit, par exemple, son bureau, je ne l'ai pas touché dans ma maison.
Et alors,
je n'ai rien touché. Elle est là. Ses habits, je ne les ai pas touchés.
En principe, les groupes, il y a un professionnel de santé, bien souvent c'est le psychologue, qui régule. Et la personne régule, ou c'est toi qui régule, ou c'est quelqu'un qui régule chacun, ou c'est celui qui parle, qui invite, comment ça se passe?
On est deux en quelque sorte, en fait. Hein. Quelqu'un qui a perdu sa femme il y a un an, et puis moi, on a décidé de créer ce petit groupe-là, en fait. Hein. Et on régule à notre manière. Mais il n'y a pas besoin de réguler, ça. Moi, j'ai jamais posé des questions. Hein. Par exemple, je leur ai dit, vous savez, actuellement dans ma salle de bain, il y a la brosse à dents de Christine qui est présente dans le pot. Et vous, comment vous faites? Comment vous avez fait? Est-ce que vous avez enlevé votre brosse à dents? C'est symbolique. Voilà. Est-ce que vous avez des photos de votre conjoint affichées? Comment? Comment vous le faites? Est-ce qu'il y a quelque chose qui symbolise sa présence dans l'appartement ou dans la villa? Voilà. Et donc, à partir de questions très simples, on comprend le raisonnement des autres. C'est ça qui est intéressant. Et il n'y a pas une solution. Il n'y a pas une bonne solution.
Oui, l'expression des autres.
Voilà, moi, les habits de ma femme, je les ai donnés. Mes deux filles sont venues. Elles ont tout pris, les bijoux, les machins, etc. Voilà. Il y en a d'autres qui ont tout gardé et qui gardent encore les habits. Intéressant de savoir pourquoi, comment. Ça, c'est intéressant. Et chacun progresse en comparant sa situation avec... On n'en parle jamais de ça. Voilà. On parle... Dans ce groupe d'échange, on parle de choses qu'en général, on n'a pas l'habitude de parler dans un repas, dans un truc, etc. Voilà. Et je mets les pieds dans le plat. Et les gens apprécient qu'on mette les pieds dans le plat.
Oui, ils sont fiers, le groupe.
Oui, oui. Bien sûr. Moi, par exemple, j'ai dans mon séjour, j'ai une mèche de cheveux de Christine. Et je trouve ça fabuleux. Alors, certains ont gardé des cendres. Là, encore une fois, je ne porte pas le jugement. Je trouve que c'est tristouné garder des cendres chez soi. En revanche, une mèche de cheveux, c'est vivant. Elle est présente, elle est vivante, Christine, avec cette mèche de cheveux. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Ce sont des éléments très simples, des échanges qui nous font, d'après moi, progresser. En tout cas, moi, ça me fait progresser.
Et vous vous rencontrez tous les combien, à peu près?
Alors, c'est tout récent quand même. Hein. On en a fait déjà deux rencontres.
Bon, donc d'accord,
c'est récent. Hein. C'est tout récent.
Mais c'est une fois par mois, une fois.
Voilà, on envisage de le faire une fois par mois ou tous les deux mois, voilà, en fonction des disponibilités et de l'intérêt de chacun. Puis peut-être qu'on peut l'ouvrir, puis certains peuvent
bien
partir.
Sûr.
Voilà, c'est souple en fait. Il n'y a pas de rigidité en tout cas.
Alors, je vous propose une trêve musicale avec Gabriel Fauré et son Requiem opus 48 in Introit le Kyrie. Vous écoutez votre Santé un trésor, une émission produite et animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. Nous recevons aujourd'hui Florian Mancione qui évoque la création d'un groupe de parole pour endeuiller dans un contexte non médical. Florian, s'il te plaît, explique-nous le fonctionnement de ton groupe de parole pour endeuiller, c'est-à-dire qui distribue la parole. Donc tu nous as dit que c'était toi et un ami, mais
un ami particulier, oui.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit ben, on va attendre la réponse de... Donc ça se fait comme ça, en famille, comme un repas de famille.
Exactement,
quoi.
Il ne faut pas qu'il y ait un formalisme qui gêne l'expression. Donc là on réagit de suite en fait, hein. Voilà.
Oui.
Voilà. Les photos, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu consultes régulièrement les photos avec voilà. Ton ancien conjoint?
Voilà. Voilà. Ce sont des questions comme on peut le faire autour d'un repas, en fait.
Exactement.
Mais souvent,
alors que jamais on se pose ce genre de questions.
Voilà, bien sûr, non, mais ça c'est évident. Mais je veux dire, quand on veut faire des affaires, on dit, ben, on mange ensemble. Alors, bon, évidemment, c'est convivial, on est face à face, on est trois, on est quatre. On fait rarement un repas d'affaires à 25, quoi. Hein.
Bien sûr.
Sauf à l'ONU, mais l'ONU, t'as... Et comment, c'est un face-à-face, on est trois, et puis on commence par des banalités, ben je suis intéressé par ceci, et puis on vient peu à peu aux affaires, mais il n'y a pas de deux, hein, c'est chacun qui... Alors, bon, évidemment, c'est un peu comme ça, c'est-à-dire que ça vient comme autour de la famille, pareil, on vient après aux affaires de famille, c'est-à-dire que dans un repas de famille, ben, on négocie, quoi, hein, on informe, on négocie, ça vient comme ça. Et vous, c'est un peu comme ça, c'est-à-dire que la parole se fait...
Alors, chacun pose des questions par rapport à ses préoccupations.
Moi, oui, mais les questions, c'est sûr, quand on pose des questions...
Par exemple, ma préoccupation, actuellement, c'est comment vivre une vie avec quelqu'un d'autre. Et moi, ça m'intéresse de savoir comment les autres ont vécu.
Oui.
Est-ce qu'ils ont... À quel moment, à quel instant, ils ont décidé de rencontrer une personne, de vivre avec cette personne? Et comment peut-on vivre avec une nouvelle personne, en fait, hein, alors qu'on a connu quelque chose d'extraordinaire auparavant? Voilà, ça m'intéresse. Comparer un petit peu leur manière d'agir, entre guillemets, leur stratégie, voilà, et avec ce que moi je pense aussi. Et je veux comparer, voilà.
Bon, donc c'est bien. Donc c'est... Alors, moi, ce qui m'intéresse en tant que médecin, c'est le fait qu'il n'y ait pas de professionnel de santé, quel qu'il soit, hein, dans une psychologue. C'est plutôt les psychologues qui sont intéressés par ça, les médecins. Moi je l'ai eu pratiqué bien évidemment, mais les médecins c'est rare quand même, hein, mais c'est surtout les psychologues. Alors en fait, qu'il n'y ait pas de professionnel de santé, ça porte quel avantage?
On travaille sur du ressenti.
Oui, mais quand il y a un professionnel de santé aussi.
Non, parce que le professionnel de santé, il va te taxer sur que je pense. Hein,
normalement, quand on fait un groupe de parole, on laisse.
Oui, mais on voit que derrière ces questions, derrière, il y a autre chose en fait. Hein. Alors là, il a quelque chose en tête en fait. Hein. Tandis que là, on n'a rien en tête en fait. Hein. On s'exprime librement. L'intérêt, c'est ça en fait. Hein. Et cette liberté, on se sent pas jugé parce que le professionnel de santé, c'est le sachant. Et le sachant, il est parfois gênant, le sachant. Tandis que comme on est entre nous, il n'y a pas de sachant. Il n'y a que des expériences différentes. Et là, on est bien, en fait. Hein, on va comparer. Et on ne peut pas dire ça, c'est mieux que ça. Voilà.
D'accord. Et alors, si un trouble, un événement négatif, un récurrent négatif se produit, quelle est votre attitude, puisque tu nous as dit que vous étiez deux leaders,
leaders. Mais il ne peut pas y avoir de choses
négatives.
Ce n'est pas possible. Je pose la question, êtes-vous allé sur des sites de rencontres?
Ben oui ou non, oui.
Et oui, non, et pourquoi, comment?
Voilà, c'est
tout. Mais on ne parle pas de jugement. Est-ce que c'est bien ou pas bien d'aller sur un centre de rencontre? Pour les seniors, par exemple. Ou pour les jeunes? Ah, on ne sait pas, il n'y a pas la réponse. Il n'y a que des témoignages, il n'y a que des expériences. Et l'intéressant, c'est pourquoi, comment? Voilà.
D'accord.
Et je ne veux surtout pas qu'il y ait un thérapeute. Ah bon, vous allez dans un site de rencontre?
Mais tu vois, le thérapeute...
Dans la pratique, je n'y vais pas, moi. Hein, mais j'aimerais savoir pourquoi les autres... Ils vont, s'ils y vont. Et là, s'ils sont mis en confiance, ils vont le dire. J'y vais pas pour ceci ou j'y vais pour cela. Ça, c'est intéressant.
C'est-à-dire que tu vois un peu, avec tes réflexions, que le thérapeute est un peu l'œil de Caïn à l'atome. Quoi.
C'est le sachant.
Voilà, c'est-à-dire qu'on est obligé de se référer à lui. Quoi. C'est intéressant, ton témoignage, parce que les accompagnants de groupes de parole disent non, nous ne voulons pas. Mais quand même,
nous
tu n'as pas tort.
Ah,
on ne veut pas rentrer, on ne veut pas être dirigiste. Normalement, on ne doit pas diriger quand on fait un groupe.
Oui, bien sûr. Mais inconsciemment, en tout cas, c'est l'image qu'il donne.
C'est l'œil dans l'atome. L'œil regarde, l'œil dit rien, mais l'œil regarde.
Et forcément.
Voilà, et alors, là aussi, une autre question qui est intéressante pour le médecin que je suis, est-ce que quand même vous avez des professionnels référents? C'est-à-dire que, quand je parle de professionnels référents, si vous sentez dans votre groupe qu'il y a quelqu'un qui n'est pas bien, par exemple, qui dit « j'ai des mauvaises idées », avec des idées de se supprimer ou autre, est-ce que vous dites « il faut voir un médecin » ou vous avez des médecins ou des psychologues référents?
On a fait que deux réunions, en fait.
Oui, donc il n'y a pas beaucoup de recul.
Et jusqu'à présent, ça s'est bien passé.
Ça s'est bien passé, il n'y a pas eu...
Voilà. Des mauvaises pensées, je pense pas qu'il y en aura par la suite. Hein. C'est mon côté optimiste.
Mais c'est une expérience qui est intéressante.
Mais voilà, en fait. Hein.
Bon, alors donc, rien de tel s'est produit.
Non.
Bien, alors avant de nous quitter, j'aimerais que tu lises quelques lignes de lignes que tu as écrites, surtout avec ton autorisation, hein, des paroles de Christine, comme tu l'as fait notre dernière émission. Comme ça, les auditeurs se rendront plus compte de ton vécu.
Donc effectivement, tu as extrait une partie d'un côté un petit peu poétique dans mon ouvrage, en fait. Hein. J'écris des poèmes, en fait. Hein. Et puis, j'ai laissé la parole à Christine. Et là, effectivement, tu as choisi, et c'est ton droit.
Mais tu m'as dit que je pouvais. Alors
exactement. Donc, je fais s'exprimer Christine. J'ai imaginé Christine parlant
bien sûr.
À sa manière.
Mais c'est ce qui est intéressant, quand même.
Voilà. Donc, la parole est à Christine. Je n'ai pas traversé de fleuve. Je n'ai pas franchi de porte. Je me suis simplement allégé. Lorsque j'ai quitté le monde des pas lourds, je n'ai rien perdu de ce qui comptait. J'ai seulement laissé ce qui pesait. Ici, le temps ne s'écoule pas. Il s'ouvre. Je vois les vivants sans les juger, car je sais désormais combien chaque pas est difficile quand on marche encore dans la poussière. Je l'ai vu partir, non pas vers le bas, comme tant d'amants désespérés, mais vers le haut, avec cette gravité tranquille qui n'appartient qu'à ceux qui aiment vraiment. C'était lui. Oui, c'était lui. Les dieux se sont agités. Moi, je suis resté immobile, car l'amour n'a pas besoin de mouvement pour être reconnu. Quand Hermès a voulu l'arrêter, j'ai souri, car il ne le connaissait pas. Il ne le connaissait pas comme moi, je l'ai connu, comme moi, je l'ai aimé.
Nous te remercions et puis ça donnera certainement envie de poursuivre cette lecture, hein, quand le livre paraîtra. Je sais que tu travailles dessus. Hein. Et quand tu parles de lui, enfin, bon. Quand Christine parle de lui,
c'est moi.
Bien évidemment,
forcément,
toi.
C'est moi. Voilà, ben, je l'imagine.
Oui, voilà. Non, c'est important. Et ce côté poésie, est-ce que tu aimes la poésie? Est-ce que tu fais, tu écris?
J'adore la poésie, j'écris beaucoup de poèmes.
Ah, alors ouais, parle-nous, alors, on va en profiter un peu, c'est une petite... parle-nous de tes poèmes.
J'adore les poèmes, j'adore parler de l'amour, j'adore parler de la vie, voilà.
Par la poésie.
Par la poésie.
Est-ce que tu fais partie d'un club de poésie?
Pas du tout, alors, encore une fois, je veux pas qu'il y ait un sachant qui me dise...
Ah non, mais moi, j'ai l'expérience de club de poésie, j'avais un ami qui était beaucoup plus âgé que moi, qui aurait pu être mon père, qui aurait pu être mon père. On avait des passions communes, notamment l'équitation, le cheval. Et il était poète et il écrivait des poètes. Et il faisait partie d'un club de poètes de poésie, pas de poètes, enfin de poètes et de poésie à Nîmes. Mmh. Il m'avait invité un soir parce que ça m'intéressait, parce que moi je suis réfractaire non pas à l'écoute et à la lecture des poèmes, mais à la structuration du poème. C'est-à-dire que je me vois pas en train d'écrire des poèmes et je saurais pas, enfin j'aurais. Et ma co-éditrice, je pense à elle aujourd'hui particulièrement, écrivait des poèmes. Moi, je ne sais pas. Donc, il m'avait invité, donc c'était très simple, c'était un repas. Donc, mm-hmm. Et puis, quelqu'un se levait et lisait un poème. Et puis les autres appréciaient. Est-ce que tu peux nous réciter un de tes poèmes?
Oh non, je
tu ne les connais pas par cœur, hein.
Sûrement pas, en fait. Le plus important, c'est oser. Voilà, le plus important dans la vie, c'est oser. Moi, je ne suis pas forcément un écrivain littéraire, en fait. Hein. Je suis plus spécialiste dans les essais.
Oui, oui, ça, bien sûr.
Et quand j'écris des poèmes, je sors de ma zone de confort et j'ose. Mais ouais. Ça me fait plaisir d'écrire, en fait.
Oui, mais c'est...
Voilà. C'est ça qui est important, c'est oser. Il faut oser.
Bon, d'accord. Mais donc, ces poèmes, tu vas les publier, non?
Pas
tu
forcément.
Gardes pour toi.
Non,
tu les
c'est pour moi, oui, oui. Ouais.
Tu as fait des livres sur les pensées
j'ai,
aussi.
J'ai des positions très égoïstes, en fait. Hein. Ces poèmes,
oui, c'est bien
choses,
d'être
voilà.
Égoïste. Hein, mais pas,
et j'assume. Et j'assume
ouais,
cet égoïsme.
Mais il faut assumer son égoïsme. Voilà. En plus, ça fait plaisir. Quand on est égoïste et qu'on assume son... Ça, je veux dire, on s'enrichit. C'est un cercle vertueux, quoi.
Voilà.
Alors, j'ai l'habitude de finir cette émission par une rubrique de fin d'émission, des livres sur la santé aujourd'hui. Alors, Florian a écrit 37 livres.
Oui.
Tu peux nous en citer quelques-uns. On va en citer deux. Là. Alors, je les cite tout de suite, comme ça on les aura. C'est le management selon Jésus aux éditions du CERF.
Oui.
Alors, aux éditions du CERF, parce que là, c'est une co-écriture avec...
J'ai interviewé Jésus lors de la scène.
Voilà, donc c'est...
Et la personne qui a incarné Jésus, pour répondre à mes questions, c'est un Dominicain qui s'appelle Hervé Ponceau, qui est diplômé d'HEC, qui a un doctorat de théologie et qui a dirigé l'école biblique de Jérusalem. Donc, quand je lui posais les questions,
oui, il savait de quoi il parlait.
Il répondait de manière très plausible, en fait.
Voilà, oui.
Et à partir de ses réponses, j'ai identifié 7 piliers importants de management chez Jésus.
Voilà.
Voilà.
Et donc
on a fait un livre.
Est-ce qu'il a été satisfait, est-ce que le théologien a été satisfait de ton travail de...
Ah, bien sûr.
Bien sûr.
Bien sûr. Jésus, je l'ai un petit peu secoué quand même, en fait. Hein.
Oui, mais des fois, il faut le secouer.
Mais
quoi.
C'était très, très intéressant.
Des fois,
et ce qui nous a fait
on ne le comprend pas toujours, mais enfin, voilà. Bon.
Ce qui nous a fait plaisir, c'est que les éditions du CERF donc, ont édité ce livre. Il s'est bien vendu, il a eu un bon succès. Il a été réédité en livre de poche aux éditions du CERF.
Donc, vous pouvez l'acquérir facilement.
Bien sûr. Donc, on était très satisfaits. C'est
sûr.
Une bonne chose, en fait. Hein. Une réédition en livre de poche, c'est bien. Voilà.
C'est bien. Et puis, alors,
Le management selon Jésus, le management selon Napoléon.
Voilà, aux éditions Athéna à Paris.
Voilà. Le management selon les philosophes, où j'ai interviewé 42 philosophes. Le management selon les animaux.
Là,
j'ai identifié 20 animaux. Voilà. Et donc, j'ai essayé de comprendre leur technique managériale. C'est parti d'un entretien avec un ami qui discutait management. Et il m'a dit, tu vois, moi, Florian, je suis un manager qui s'adapte. Je suis un manager caméléon. Tu vois, le manager caméléon. Et il m'explique pourquoi c'est un manager caméléon. Alors, je suis rentré à mon bureau et j'ai fait un article sur le manager caméléon. J'imagine. À la fin de cet article, je me suis dit, mais le manager lion, comment il ferait pour manager? Et le renard, le manager au renard, comment il ferait pour...
Ça fait très horoscope chinois quand même.
En quelque sorte.
Et
le cobra, qui est en haut comme ça. Voilà. Et donc j'ai fait 20 types de management.
Ce sont des livres qui font combien de pages?
Oh, celui-là, il fait une petite centaine de pages.
Oui, c'est des livres qui sont accessibles. Quoi,
très, très sympa, avec un test.
Voilà, et puis c'est accessible par tout le monde, pas que par les professionnels du management, ou par les gens qui sont pris dans la rubrique management.
Et les deux derniers, donc c'est le management selon Jaurès. J'ai interviewé Jaurès.
Juste avant sa mort.
Deux heures avant sa mort.
Deux heures avant sa mort, c'est quand même un scoop.
Et le management selon les techniques théâtrales.
Ah oui, c'est bien ça. Voilà. Mais tu fais du théâtre aussi?
Pas vraiment, mais j'ai joué dans une pièce de théâtre avec un ami qui, lui, était comédien. Justement, c'est lui que j'ai interrogé. Il s'appelle Jean-Luc Cohen-Rimbaud, qui est remarquable. Un excellent comédien et un excellent metteur en scène, en fait. Bon. Et on a joué tous les deux une scène. C'est très
écoute,
amusant.
Florian, on te remercie beaucoup de ton expérience, de ton écriture, de tout ce que tu fais, de ton témoignage, surtout, et puis de cette initiative de groupe de parole d'endeuillés non médical, avec tu nous as montré les bénéfices qu'il n'y ait pas de professionnel de santé, comme ce que je me suis permis d'appeler l'œil dans l'atome, en faisant référence bien évidemment à Victor Hugo. Donc c'est une expérience intéressante sûrement pour des malades d'une pathologie, pour des endeuillés et pour des groupes de personnes. Alors merci infiniment à toi, merci d'être venu de Montpellier, la capitale de l'Hérault, la capitale du Gard. Merci.
Merci Jacques de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer.
Merci à toi pour tout ce que tu nous as apporté. Je remercie Louis à la technique et Chanel au visuel. Je vous renouvelle mon annonce sur l'adhésion à Radio Alliance Plus, à laquelle vous pouvez souscrire pour que notre radio puisse vivre. Merci d'avance. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de votre Santé un Trésor sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. À bientôt et je reste votre bien dévoué.